Je vois tout ce que vous n'entendez pas. C'est mon avantage chaque matin, puisque vous le savez, l'entretien ici, on ne le filme pas. Je vois tout ce qui se passe de mots, la façon dont mon invité se tient, droite en l'occurrence, les mains parallèles posées sur ses genoux, un cou qui n'en finit pas, un port de tête qui lui donne, comme disait ma grand-mère, une certaine autorité. La façon dont elle me regarde aussi là, pendant que je vous parle, une certaine autorité là aussi, les yeux qu'elle a si grands, si bruns, je dirais perçants, la façon dont elle est apprêtée, les cheveux longs qui semblent de plus en plus blonds, lâchés sur ses épaules, le maquillage élégant et discret, les vêtements qu'elle a choisis, un chemisier en soie, vert d'eau, pantalon noir, bottines en cuir, elle a l'air amusée, sourcils en aucun cas froncés, pas de geste d'inconfort, du moins pour le moment, pas de rictus ou de mimique gênée. On me demande parfois pourquoi je décris mon invité, mais parce qu'il se joue toujours dans un entretien des choses qui ne se disent pas avec des mots. C'est un langage qu'il me faut traduire un peu, appelez-le comme vous voulez, kinésique, proxémique, corporel, non-verbal, les gestes, les signes, les messages qu'elle m'envoie plus ou moins discrets, mais aussi la distance à laquelle elle se tient, l'inclinaison de son corps, sur la table pour s'éloigner ou se rapprocher du micro, les inflexions de sa voix, les émotions qui passent sans qu'on ait à les souligner, tout ce qu'on peut dire sans mots et qui relève là aussi de l'échange.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel langage parle mon invité d'aujourd'hui, nommé étoile de l'Opéra de Paris à l'issue de sa prestation dans le Don Quichotte de Nourieff il y a 3 ans et demi. Elle a marqué l'institution de son énergie, de son étonnante expressivité. Ça fait longtemps qu'on voulait la rencontrer pour lui tirer le portrait. Bonjour Valentine Colasanto.
Bonjour,
merci beaucoup.
De me recevoir.
Merci d'être là. Je me posais la question, est-ce qu'on a forcément besoin des mots pour dire quelque chose ?
Alors, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein, forcément, j'en ai fait mon métier. Je crois bien sûr à la force du corps, à la force du langage corporel. C'est quelque chose qui est très important pour moi, qui fait partie d'un équilibre aussi maintenant. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, certainement pour pouvoir m'exprimer d'une autre manière.
Oui, vous dites parfois, Valentine, que vous êtes rapidement sentie à l'étroit dans le langage. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Les mots sont des fois, disons, porteurs de sens et des fois porteurs de non-sens, c'est-à-dire si on les emploie mal, s'il y a une vraie habileté à trouver dans le langage, comme une vraie habileté à trouver dans le langage corporel.
C'était une épreuve pour vous de parler, plus jeune ?
Ça a jamais été une épreuve dans le sens où je n'étais pas forcément timide, mais j'avais du mal à trouver les bons mots, à employer les bons mots, surtout quand on est jeune, qu'on maîtrise pas encore parfaitement le langage. C'était beaucoup plus facile pour moi dans la danse, donc ça a été assez évident finalement. J'ai choisi la danse parce que c'était tout d'abord un moyen de facilité pour moi, c'était un moyen de m'exprimer, c'était beaucoup plus facile.
Voilà. Mais dans votre corps, jamais vous ne vous sentez à l'étroit, jamais vous n'avez le sentiment qu'il a des limites ?
C'est rare parce qu'avec ce métier, on développe beaucoup cette notion de plus de limites corporelles. On essaie de se dépasser en tant qu'artiste, certes, mais aussi en tant que sportif. Et on dépasse ses limites au quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu maintenant plus facile. Peut-être qu'au départ, je me mettais plus de limites, en effet, dans le début de mon apprentissage de la danse. Maintenant, c'est quelque chose qui est... Je pense sincèrement qu'on peut aller... qu'on peut tout exprimer avec son corps.
Pour autant, il vous est arrivé de le pousser trop loin, votre corps ?
Bien sûr. On apprend à se connaître avec le temps.
Vous pensiez à quel moment ?
Je pense à des erreurs de jeunesse que j'ai pu faire, de danser par exemple avec des blessures où j'aurais dû m'arrêter plus tôt. Peut-être je pense à des entorses sur lesquelles j'ai pensé à tort, malgré des conseils médicaux, j'ai pensé à tort que je pourrais les dépasser et puis finalement ça m'a rattrapé. Le corps nous rattrape hein, de toute façon de manière générale.
D'ailleurs, c'est peut-être apprendre à connaître ses limites pour mieux les repousser, l'acte de danser, non ?
Certainement. Il y a de ça. Il y a relever un défi, relever un challenge. On est aussi sujet à, disons, on est humain, donc le corps n'est pas toujours finalement le même tous les jours.
Alors ça, c'est passionnant. Quand vous étiez petite, par exemple, Valentine Colasanto, par quoi est-ce que vous vous sentiez limitée ? Quels étaient, disons, les points faibles, anatomiques, musculaires, qui ont conditionné aussi votre approche du travail, je suppose ?
Je suis une grande travailleuse, mais... pour plusieurs raisons. J'aime profondément ce que je fais et j'étais pas forcément la danseuse la plus douée à la base. J'avais des aptitudes physiques certes indéniables qui font que j'ai pu entrer à l'école de danse et c'est des critères qui sont en effet très sélectifs. En revanche, j'ai dû beaucoup travailler par exemple sur l'en dehors, la souplesse des hanches. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout et qui est pourtant nécessaire. Donc ça a été... J'aime pas parler de sacrifice, parce que ça a toujours été des choix que j'ai faits et je regrette absolument rien. Mais voilà, il a fallu travailler et forcer sur les hanches plus que ce que la nature m'autoriserait à faire.
En quoi danser, c'est constamment se remettre en question, en fin de compte ?
Disons, se remettre en question pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que déjà, il y a l'exercice très difficile de la barre et de l'échauffement tous les jours, qui est une remise en question quotidienne, puisqu'on se retrouve face à la barre avec des douleurs, de la fatigue, des fois du stress.
Et puis rien n'est jamais acquis, je suppose. Il faut sans cesse recommencer, retravailler, assouplir.
On dit que le vélo, par exemple, on pédale et puis on n'oublie jamais ce que c'est le vélo.
La danse, ne m'en parlez pas.
La danse, c'est très différent. Si on ne continue pas de s'entraîner, on perd très vite le niveau. Ça reste un sport, c'est un art, mais il y a une grande demande physique qui demande un entraînement presque militaire des fois, avec des horaires très précis, une grande préparation mentale et physique qu'on sous-estime des fois. Et c'est très important de pouvoir avoir une régularité dans ce qu'on fait.
Et quel plaisir est-ce que vous y trouvez, vous, dans ce travail de perpétuel recommencement ?
Ben, c'est un souci de perfection, mais même si on l'atteint jamais finalement en danse, c'est un souci de sans cesse évoluer, d'aller toujours plus loin. Ce statut d'étoile que j'ai maintenant, dont je suis très fière, c'est et ce qui me permet qui m'a permis d'ailleurs d'ouvrir de nombreuses portes et de me donner encore plus de moyens d'expression. C'est aussi quelque chose qui me permet de continuer d'avancer et qui n'est pas une fin en soi.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un début. J'ai encore plein de choses à expérimenter. J'ai encore plein de chorégraphes avec qui j'ai envie de travailler. J'ai plein de rêves. J'ai plein de défis physiques que je souhaite relever dans des ballets, des défis artistiques, des défis aussi personnels.
Par exemple, un défi physique que vous rêveriez.
Que j'aimerais relever, le Boléro de Maurice Béjart. Je pense que c'est un défi physique, c'est un défi artistique et c'est un défi physique, parce que on est 15 minutes sur une table sans arrêt de position, avec il y a énormément de pas à mémoriser. Donc ça, c'est un challenge que j'aimerais pouvoir relever un jour dans ma vie.
Vous êtes en train d'écrire mon vendredi soir, Valentine. Quand est-ce que vous avez compris que vous aviez en vous assez de ténacité pour fournir cet effort continu, très jeune?
Je pense que j'en ai pas eu vraiment conscience. Ça s'est fait un peu au fur et à mesure, c'est-à-dire que il y a un moment, je pense qu'au départ, c'était beaucoup de naïveté. J'aimais danser et je pense que ça se résumait tout simplement à ça, à un plaisir simple et finalement d'avoir école le matin, danse l'après-midi, ça me convenait parfaitement.
Oui.
Je pense que ça a été plus compliqué à l'adolescence, quand on prend conscience qu'on va peut-être en faire notre métier, qu'il faut peut-être faire un sacrifice au niveau des études, ce qui était très difficile pour moi, puisque j'aimais beaucoup travailler, j'aimais beaucoup l'école, j'étais très studieuse. Donc c'est vrai que ça a été un choix difficile. Mon entrée dans le ballet, finalement, a pérennisé et confirmé ce choix. Après, ça n'empêche que on apprend, disons, avec l'expérience. C'est-à-dire que je me fortifie, je m'endurcis, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens négatif. J'apprends à connaître mieux mon corps, à gérer mieux mon stress. Et donc, je pense que l'expérience et finalement la ténacité vient au fur et à mesure.
Et puis il y a la scène, Valentine Colasanth, l'émotion de la scène vers laquelle on se projette, je suppose, tout le temps. La première fois de votre vie, vous avez ressenti cette émotion, c'était quand ? Vous vous en souvenez ?
La première scène, je pense que c'est la première scène dont je me souviens vraiment, c'était mon premier rôle en tant que soliste, disons, quand j'étais en dernière année à l'école de danse de l'Opéra de Paris, dans un ballet qui s'appelle Entre deux rondes de Serge Liffard. C'est la première fois qu'on me confiait un rôle, donc Elisabeth Platel, qui avait décidé de me confier ce rôle. Donc c'est des spectacles qui se font en fin d'année, c'est un peu une manière de nous préparer à ce qui nous attend plus tard dans la compagnie.
Au grand saut.
Voilà, au grand saut. Même si au final, quand on rentre dans la compagnie, on repart un peu de zéro et on est à nouveau dans le corps de ballet, dans des danses d'ensemble, et ce qui a été, on pourra en parler, qui a été un peu difficile à vivre pour moi d'ailleurs, dans un premier temps, cette vie de compagnie. Mais en tout cas, à l'école, on est très protégé, c'est une sorte de on est très entouré et voilà, ce premier rôle est très marquant parce que c'est vraiment là où je me suis dit, finalement, c'est là où je me sens le plus à l'aise, c'est en scène. Je suis pas quelqu'un, finalement, j'ai du stress avant d'entrer en scène, ça c'est certain, mais ça a toujours été un bon stress. Je me suis rarement sentie dans une situation où le stress a été négatif ou m'a porté préjudice. Ça a toujours été un moteur et quelque chose qui m'a fait me surpasser.
Alors il y a des jalons dans cette carrière depuis ce premier rôle, et l'un des plus grands moments, Vous le connaissez, c'est ce 5 janvier 2018 où vous êtes nommée étoile Valentine Colasanto, vous êtes Kitri dans le Don Quichotte de Nourieff. Est-ce que vous vous souvenez de tout?
Bien sûr, je crois que alors de tout, ce serait mentir de dire que je me souviens de tout. Je pense que je me souviens surtout des plus beaux moments et des sensations que j'ai pu avoir. C'est un jour que j'oublierai jamais, forcément. C'est quelque chose qui reste gravé dans ma mémoire. C'est quelque chose dont je rêvais depuis que j'étais toute petite. Donc c'est la concrétisation de beaucoup d'efforts, de beaucoup de travail. J'ai parfaitement conscience d'avoir été très chanceuse d'avoir pu remplacer ce jour-là, que toutes les conditions soient réunies aussi. Ça a été un moment magique parce que finalement, j'avais très peu répété avec le corps de ballet. Je me suis retrouvée en scène avec toute la compagnie qui m'a soutenue et qui m'a portée vraiment du début à la fin, et je leur dois beaucoup parce que je me suis sentie vraiment en confiance. Et ce soutien est important aussi. On pense dans une carrière de danseuse étoile qu'on est, ou de danseur étoile, qu'on est très seul. Or, c'est pas tout à fait le cas. On est énormément soutenu par nos collègues, surtout en scène. Enfin, moi, je ressens beaucoup, beaucoup cette présence. Et là, c'est vraiment ce qui m'a porté, et ça s'est terminé finalement par cette nomination. Quand Aurélie Dupont est montée sur le plateau, forcément, c'était une grande surprise, et je savais même pas si ça me concernait vraiment. Il y a un moment où vous arrivez plus vraiment à réaliser ce qui se passe.
Attendez, on va le revivre ensemble, ce moment, si vous le voulez bien, en direct à 9h18 sur France Inter. C'est l'entrée de Kitri dans l'acte 1 du Don Quichotte de Nourieff. Vous êtes prête?
Prête.
Avec nous, vous dansez?
Bien sûr.
Musique.
Voilà, alors ça c'est donc c'est un ballet de Nourieff donc j'interprétais le rôle de Kitri ce 5 janvier, et ça c'est cette première entrée. C'est un rôle qui est très bien construit parce que justement cette première entrée permet de doter un peu tout le stress qu'on peut avoir avant un premier spectacle. C'est quelque chose qui est très gratifiant et en même temps très stressant d'avoir un premier rôle à l'Opéra de Paris. Moi, c'était la première fois que j'interprétais Kitri à l'Opéra Bastille. Donc, il y avait beaucoup de stress. Et dès ces premières minutes, en fait, finalement, j'ai su que ça allait bien se passer. J'ai compris que, voilà, on peut parler d'énergie, on peut parler de travail, on peut parler de plein de choses. Tout était réuni pour que le spectacle se passe dans de bonnes conditions. Là, c'est ce premier moment où j'ai réalisé finalement cette pause. Dans la variation, il y a cette petite pause finalement où on cherche Basilio, notre Basilio. Et c'est quelque chose, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, parce que ce moment, j'ai pris conscience que j'étais devant plus de 2000 personnes et que j'allais danser plus de 2 heures de ballet et que j'allais devoir, assurer certes, mais aussi... J'ai très vite pris conscience que j'avais envie de m'amuser et de profiter de ce moment, parce qu'on ne sait jamais finalement quand est-ce que ça arrivera. Une autre fois.
Voilà. Solo mythique, Valentine Colasanto. Quelle difficulté technique est-ce qu'il vous pose? Parce que c'est un rôle très exigeant, le rôle de Kitri.
C'est un rôle très exigeant, techniquement, parce que... comme tous les ballets de Nourieff, il y a une vraie exigence technique... une vraie pureté dans l'académisme, dans le pas classique. C'est un enchaînement de pas très compliqué. Par exemple, dans ce premier solo, il y a énormément de pirouettes, de sauts, qui permettent de donc décharger cette adrénaline, et en même temps qui fatigue beaucoup ce premier acte. C'est presque un ballet à part entière. Donc ça, je m'y étais préparée en quelque sorte, mais on n'est jamais préparé finalement à une telle émotion, une telle décharge de fatigue aussi. C'est quelque chose qui est toujours difficile à gérer, et en même temps ce sont des ballets qui sont toujours très bien construits. Dans le deuxième acte c'est plus calme, donc ça permet un second souffle, une deuxième énergie qui se met en place. Et puis après, c'est un rôle qui me tient particulièrement à cœur, parce que certainement que je m'y identifie aussi. Kitri, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un d'assez finalement solaire, qui emmène avec elle tout ce premier solo. Finalement, elle est sur la place du village, elle salue tout le monde, c'est quelqu'un d'assez finalement... ça représente bien mes origines. Voilà, j'ai des origines italiennes, même si finalement Kitri, elle est espagnole. Ça reste quand même la Méditerranée, le soleil, et c'est quelque chose qui est toujours très... C'est un peu différent des autres ballets qu'il a pu créer, mais c'est un ballet que j'aime beaucoup.
Alors vous le disiez, c'est un remplacement en fait. Ce jour-là, au pied levé, l'étoile Amandine Albisson pour le rôle de Kitri ne peut plus danser. Vous n'êtes que première danseuse à l'époque. Comment vous réagissez? Comment ça se passe en fait? On vous le dit juste avant ou la veille quand même?
J'ai été très surprise parce que j'y croyais plus. On arrivait en fin de série, j'étais remplaçante depuis donc déjà un mois et demi. On arrivait à la fin des spectacles, donc il y a un moment, en tant que remplaçante, on se dit bon bah... ça s'est pas produit, finalement on ne souhaite de mal à personne, hein, ouais. Malgré ce qu'on peut dire, voilà, je souhaitais de mal à personne, et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrivait un peu au hasard. On était à 3 jours de la fin de cette série de Don Quichotte, donc on arrivait à la fin de ces spectacles, je crois qu'il y avait eu plus de 20 spectacles, et j'ai eu cet appel d'Aurélie Dupont qui m'a dit, bah voilà, tu vas remplacer le jour de l'avant-dernière, donc ce 5 janvier 2018. Donc, je pense que je suis restée un petit... D'après mes souvenirs, je me souviens plus exactement, c'est allé très vite, mais je me souviens que je suis restée un peu sans voix et que je lui ai dit oui, oui, voilà. Oui.
Donc, vous n'avez pas prévenu vos parents, ils ont peut-être que je vais être nommée étoile après,
pas
il y avait personne.
Pas du tout, il n'en était pas question, parce qu'en fait, au final, j'avais 3 jours pour préparer un 3 actes, ouais. donc plus de 2 heures de ballet, même si je maîtrisais quand même... pas mal le ballet parce que je l'avais dansé avec François Alu au Japon quelques années auparavant. C'était quelque chose qui était... Donc il y a une mémoire corporelle, ouais, qui m'a énormément servi et qui est très présente. Tous les sportifs, tous les artistes pourront vous en parler. On est souvent surpris de cette mémoire corporelle parce que je me suis retrouvée le jour du spectacle, j'avais l'impression d'avoir répété presque pendant un mois alors que c'était pas le cas. Donc c'est toujours le corps, le cerveau, voilà, on maîtrisera jamais tous ces mystères, mais en tout cas ça a été finalement une grande surprise et une grande joie, et ça a été très vite finalement une opportunité, j'ai saisi l'opportunité.
Valentine Colasanto, qu'est-ce qui fait qu'on devient étoile en fait? À quoi ça tient?
À quoi ça tient? Ça tient certainement à beaucoup de paramètres, je pense être là au bon moment, être persévérant, et continuer malgré les difficultés, malgré les adversités. J'ai connu beaucoup d'échecs aussi. Ça n'a pas toujours été évident. Je suis loin d'avoir eu un parcours tout tracé. Je pense que il y a beaucoup d'abnégation, mais dans le bon sens du terme. Il faut réussir à être persévérant, je pense, et croire finalement en son destin, en sa bonne étoile.
Et là, en l'occurrence, on peut parler de destin, parce qu'il se trouve que Don Quichotte, c'est pas seulement le ballet sur lequel vous avez été nommée étoile, c'est aussi, je crois, le premier ballet que vous ayez vu.
Exactement.
À l'opéra. Lorsqu'on vous repensez à cette toute première fois, en tant que spectatrice, quelles images, quels passages, quelles variations vous reviennent immédiatement?
Mais certainement cette première entrée, parce que je trouve qu'elle est assez marquante pour le spectateur. C'est la première fois qu'on voit Kitri arriver en scène, et elle est assez triomphante, cette entrée. On court de partout, il y a énormément de sauts.
Vous vous souvenez qu'il a dansé à l'époque?
Sylvie Guilhem.
Oh bah, voilà. La classe.
Rien que ça.
Vous aviez quel âge, vous?
J'avais 8 ans. Donc, j'avais à peine 8 ans. J'étais pas encore entrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et je pense que ça a été un élément déclencheur.
C'est-à-dire que vous avez su que vous seriez danseuse?
J'avais très envie de ça, j'avais des aptitudes pour. C'était un moyen pour moi de canaliser aussi une énergie qui était parfois débordante, qui l'est des fois toujours d'ailleurs. Et c'est un... Disons, ça fait partie de mon équilibre. Et si j'avais pas pu en faire mon métier en tant que professionnelle, je pense que j'aurais continué à en faire de manière amateur.
C'est intéressant parce que cette énergie, Valentine Colasanto, vous l'avez canalisée dans un cadre très strict, très rigide, qui convient pas à tout le monde, qui peut parfois abîmer aussi le plaisir qu'on a à danser, non?
Certainement. Alors je suis peut-être un... J'ai été préservée peut-être par mon entourage. J'ai une famille qui est très présente, qui a su me mettre en garde sur plein de choses. C'est certes un métier difficile, mais moi qui m'a appris la rigueur.
Et comment on fait pour garder le plaisir?
Comment on fait pour garder le plaisir? Ben, je pense que je suis quelqu'un de très passionné, et c'est pas forcément une question que je me pose. Ce plaisir, il est là depuis toujours, et il est, il a pas changé. Il est toujours aussi présent, et je vous avoue, je me pose pas vraiment la question.
Mais tant mieux.
De pourquoi ce plaisir est toujours là. Il est là.
Alors on se fait plaisir maintenant. On va se faire plaisir avec un autre extrait dansé en duo d'un ballet contemporain qui s'appelle Speak for Yourself, entré au répertoire de l'Opéra de Paris en 2003, je crois, sur une musique de Bach et de Steve Reich, chorégraphié par Paul Lightfoot et Sol Leon du Netherlands Dance Theater. Valentine, qui est votre partenaire ce jour-là?
Daniel Stocks.
On y va?
Oui, on y va.
On y va.
Donc, ça a été un grand plaisir de pouvoir danser. Bon, déjà, la musique est sublime. Hein. Ça parle à tout le monde. Hein. Bach, moi, ça me fait rêver depuis que je suis toute petite. Ensuite, il y avait une particularité à ce ballet, c'est qu'on évoluait dans l'eau. Donc là, dans ce pad 2, on a de l'eau partout sur le sol de Garnier. Donc c'est un défi technique, mais c'est aussi un défi voilà physique, parce qu'il a fallu beaucoup s'entraîner à évoluer dans l'eau. Il y a des pads 2 à ce moment-là. Ce pad 2 est assez acrobatique, il y a beaucoup de portée. Daniel me prend sur son dos, sur ses épaules. Des fois, je touche même pas le sol. Lui, des fois, il a un seul pied à terre. Donc tout est sur l'équilibre. Il y a de la pluie qui tombe. Donc, ce qui peut paraître assez finalement enchanteur comme ça vu de l'extérieur, mais au final la pluie, le temps qu'elle arrive, elle était froide, donc c'était pas forcément agréable. Les premières répétitions en scène ont été très compliquées parce qu'il a fallu dépasser ce côté voilà technique de travailler sur un sol très glissant avec des conditions qui évoluaient à chaque spectacle, parce que bah l'eau, elle se disperse pas de la même manière, elle tombe pas de la même manière. Nous, on est sujet aussi, chacun a son humeur du jour, le corps ne réagit pas forcément de la même manière tous les jours. Donc ça a été une très belle expérience. C'est toujours très intéressant pour nous, en tant qu'artistes, de travailler avec des chorégraphes qui sont vivants, avec qui on échange en studio, parce qu'il y a un vrai rapport qui se fait. C'est une très belle expérience. On a continué à évoluer au fur et à mesure des spectacles. Et finalement, c'est toujours des bons moments, parce que j'aime beaucoup cette... C'est pas toujours le cas, mais là, vraiment, dans ce ballet, on a grandi au fur et à mesure des spectacles avec la pièce, et on a réussi à finalement s'acclimater à tous ces petits changements et tout ce qu'imposait finalement l'eau.
On parlait de langage tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait pour vous la spécificité du langage chorégraphique développé par ce couple, parce que c'est un couple, hein, Paul Lightfoot et Sol Leone?
Ils ont une spécificité qui leur est propre. Ils travaillent beaucoup en binôme. Ils se servent beaucoup aussi de ce que propose le danseur. Donc il y a un vrai enrichissement, disons, dans les deux sens. Et ils utilisent vraiment le langage classique, hein. Ils utilisent vraiment tout ce qui est gestuel académique, et ils arrivent à le retransposer avec leur univers qui est beaucoup plus... ils ont... un vrai imaginaire, une vraie vision de la danse. Ils ont un côté très esthétique qui pousse presque à l'extrême. Ça a été une très belle rencontre. Je pense que je m'en souviendrai.
Moi, c'est quelque chose qui me passionne, hein, le fait que ce soit des langages à chaque fois, des langages chorégraphiques. Et je suppose que ça vous permet de vous améliorer sur le plan technique toujours, comme d'apprendre une nouvelle langue.
Complètement. Ce sont vraiment des phases communicantes. Souvent, on me demande finalement si je préfère le classique ou le contemporain. Je pense que les deux me nourrissent et se complètent finalement. Plus j'aborde des créations contemporaines avec des chorégraphes contemporains, plus je suis libérée dans mon classique aussi, parce que ça me permet d'avoir une autre approche, une autre vision que n'avaient pas forcément finalement les danseurs classiques à l'époque, oui. quand on connaissait que le classique. Donc on a une grande richesse finalement je pense que c'est un atout que l'on a notre génération maintenant.
Et on se pose sans cesse des questions. Là en l'occurrence, c'est un duo dans Speak for Yourself, et ça interroge. L'impression, dites-moi si je me trompe, la tradition du duo homme-femme, tel qu'on pourrait le voir dans le ballet classique. Ils en prennent des éléments, mais ils le réinvestissent, ils le réinventent.
C'est vrai, complètement. Ils réinventent complètement la manière d'aborder le couple. Il n'y a pas forcément de notion de domination, d'ailleurs. Dans les ballets classiques, souvent, l'homme, dans les pas de deux, est au service de la ballerine, la porte, voilà. Là, dans ce ballet, et dans beaucoup de leurs ballets, c'est très différent. Ils inversent des fois même le rôle, finalement, du porteur, du porté. Ce n'est pas forcément une femme, ce n'est pas forcément un homme. Il n'y a pas forcément de genre. Donc voilà, c'est vrai que c'est... mais dans tous les ballets contemporains, de manière générale, il y a une vraie réinterprétation du couple. Ça peut être deux hommes, deux femmes. Il n'y a plus vraiment de... Voilà, les barrières sautent, en fait.
Et je me pose la question, dans la formation du danseur, à quel moment est-ce qu'on apprend à danser avec un partenaire?
On apprend finalement assez tard dans notre parcours. Enfin, assez tard. On reste très jeune, hein, mais je suis rentrée, par exemple, pour me parler de mon parcours.
Quoi.
Je suis rentrée à 8 ans, voilà, à l'école de danse. Et j'ai commencé à faire du, ce qu'on appelle partenariat, donc des cours d'adage pour éveiller justement à comment se positionner dans les mains du partenaire. C'est très différent. C'est vraiment, c'est un apprentissage à part entière. J'ai commencé vers 15 ans.
Et qu'est-ce qui fait un bon partenaire pour vous ?
Qu'est-ce qui fait un bon partenaire ? Je pense que c'est surtout un partenaire à l'écoute. Voilà, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute des besoins, donc de la personne qu'il a dans les mains. C'est aussi beaucoup un rapport de complicité. Un très bon partenaire peut être très bon pour voilà pour une danseuse et moins bon pour l'autre. Il y a une vraie notion de complicité. On est humain. Il y a des rapports qui ne s'expliquent pas. Des rapports de complicité, contact
entre deux corps
oui,
aussi.
Des rapports artistiques. Voilà, il y a des choses qui voilà, on n'arrivera jamais à voilà mettre des mots sur tout. Mais c'est quelque chose qui est très personnel, je pense.
Mais le travail avec le corps de l'autre lors d'un duo, ça vous permet aussi d'apprendre à mieux connaître votre propre corps, Valentine Colasanto.
Complètement. C'est comme dans tout d'avoir de discuter avec quelqu'un d'autre sur un avis, de débattre avec quelqu'un sur quelque chose, même si on n'est pas d'accord, c'est toujours très constructif. Ça permet d'avoir un regard extérieur, de prendre un petit peu de recul. Et ben dans le pad 2, c'est pareil. Se mettre au service de quelqu'un, c'est aussi finalement se dépasser, se surpasser et essayer d'apporter le meilleur à son partenaire et inversement. Donc je pense que c'est quelque chose qui tire vers le haut, oui, en effet.
Vous savez que moi, quand je danse, c'est pas exactement ça. C'est souvent seul dans ma salle de bain, devant ma glace, en écoutant Jamie XX. Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas ?
Bien sûr.
Jamie XX, dont on retrouvait la musique électro dans Tree of Codes, chorégraphiée par Wayne McGregor, dans une scénographie assez extraordinaire du plasticien Olafur Eliasson. Est-ce que vous êtes prête ?
Prête.
On y va.
Alors ça, c'est un autre ballet que j'ai énormément apprécié danser. Donc Tree of Codes, donc de Wayne McGregor. Donc c'est un peu particulier. Là, c'est un solo qui est assez technique finalement, où j'ai eu beaucoup de liberté tout de même, mais qui est très intense physiquement. Et la particularité de ce solo, c'est que dans la mise en scène de Olafur Eliasson, il y a tout un jeu de miroir. Et à cette entrée, finalement, je suis face à un miroir et en même temps, je vois en transparence le public. Donc c'était très perturbant. Parce que je me vois danser, donc ce qui est pas du tout finalement habituel dans les ballets, et en même temps je vois les réactions du public parce que le public est d'un coup très éclairé par toute cette mise en scène de Olafur Eliasson et ce jeu de miroir et ce jeu de reflets de lumière. Donc c'était assez perturbant finalement de se voir un petit peu partout en miroir parce qu'il y a des pas de deux, il y a énormément d'évolutions. Et l'autre caractéristique de ce ballet, c'est qu'on a été mélangé finalement avec des danseurs de la compagnie de Wayne McGregor. Donc ça a été un vrai échange finalement humain, chorégraphique, artistique. Et c'est pas souvent qu'on a le cas de se mélanger finalement avec d'autres danseurs à l'opéra. Et du coup, c'était très enrichissant de pouvoir un peu mélanger toutes ces cultures.
Mais là, ce qui frappe Valentine Colasanto, c'est quand même le rythme, hein. La vitesse d'exécution, on l'entend à la musique. Comment est-ce qu'on fait pour exécuter si rapidement, en mouvement, tout en restant précise ? Parce que c'est ça la difficulté, je suppose.
C'est énormément d'entraînement, hein. Derrière cette création, il y a plus d'un mois de travail. 10 heures par jour, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été s'approprier déjà le langage de Wayne McGregor, ça a été compliqué parce qu'il a un langage qui lui est propre, qui en est fait très rapide, il y a presque un pas par seconde, et c'est pas forcément un langage chorégraphique sur lequel on a été formé, donc et en même temps c'est toujours très enrichissant pour nous en tant que, parce qu'on est des pattes à modeler finalement pour un chorégraphe. Moi en tout cas je me mets vraiment au service du chorégraphe et j'essaye de rendre service à sa pièce et de la défendre du mieux que je peux, en fait.
Alors justement, qu'est-ce qui fait pour vous la beauté d'un mouvement ?
Qu'est-ce qui fait la beauté d'un mouvement ? Je pense sa singularité, dans un premier temps, et ensuite sa force d'expression. Donc pour moi, en tout cas ce que je recherche dans tous les mouvements que je fais en scène, c'est finalement chercher une symbolique ou qu'est-ce que ça veut dire, ou en tout cas si c'est pas quelque chose de forcément conscient, de réussir à exprimer un instant, un moment, et peu importe, le mouvement peut être le même et exprimer des choses différentes aussi.
Et ce mouvement, il est toujours perfectible ?
Bien sûr, ça c'est notre grande notre grande quête et finalement qui est insolvable, c'est-à-dire c'est une recherche de perfection permanente et en même temps on sait qu'on ne l'atteindra jamais.
Y a-t-il seulement un moment, Valentine Colasanto, dans votre carrière où vous avez eu le sentiment au moins de vous en approcher de la perfection ?
Ça arrive peut-être.
Sur un geste ?
C'est difficile de dire oui parce que je pense que finalement les moments où j'ai eu ce sentiment peut-être d'approcher la perfection, avec le recul je me rends compte que j'en étais loin. Donc c'est très difficile de toucher cette perfection, et je pense que c'est même quelque chose dont il faut se détacher finalement avec
alors,
le temps.
Alors qu'est-ce qu'on vise quand on danse ?
Qu'est-ce qu'on vise ? D'être de plus en plus libre, en tout cas moi de ma quête maintenant, c'est d'être de plus en plus libre dans ce que je fais, dans mon interprétation, de proposer des choses de plus en plus personnelles.
Il faut du caractère.
Il faut du caractère, oui, mais je pense qu'on en a tous dans... enfin.
À ce niveau-là, sans doute.
À ce niveau-là, oui, ça demande énormément de persévérance, de remise en question, et en effet, de pas perdre la foi en ce qu'on fait. Donc, il faut y croire, et pour y croire, en effet, il faut peut-être avoir un petit peu de caractère.
Merci infiniment pour ce caractère et pour cette masterclass de danse. Valentine Colasanto, merci d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle qu'on vous retrouvera dès début décembre dans le Don Quichotte de Nourieff à l'Opéra Bastille. Vous serez chez vous, là.
Voilà, c'est un, oui, certainement. Et c'est un grand plaisir de pouvoir reprendre cette production après tout ce qui s'est passé pour les artistes. Voilà, on va pas revenir là-dessus, mais voilà. C'est un grand bonheur de retrouver le public et de retrouver la scène bientôt.
Et ce sera pour nous aussi une grande joie. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers. Juste après ça.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne nous lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens.
Dernier jour du disco, Juliette Armanet, 9h40 sur France Inter, l'instant M, Sonia De Villers, tout va bien Sonia?
Ah ouais, ça secoue carrément là, l'Armanet fait danser tout le studio.
Nous aussi, bon, c'est une matinée danse.
À Augustin, demain. À demain, ouais, ciao. Salut.